BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, nous serons avec David Leclabard, le patron de l'agence Australie, viendra nous parler des nouveaux défis de son agence entre la perte du budget de Leclerc et le gain de celui de Lidl. Il nous donnera sa vision d'un secteur de la distribution en pleine mutation. Simon Tenenbaum, qui signe l'édito de la semaine, nous expliquera pourquoi les marques de luxe s'intéressent au marketing immobilier. Et puis, on fera le point sur le classement Benz Brand. C'était la deuxième édition cette semaine. Quelles sont les marques qui se démarquent? Ce classement nous réserve quelques surprises. Décryptage avec Émilie Martin, la directrice du développement et de l'intégration de Service Plan France, et Agnès Jacot, la directrice marketing de Roxane, la maison mère de Cristaline. HebdoCom, ça commence tout de suite et c'est les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors cette semaine, Frédéric, c'était les Hits d'or de CB News. C'est quoi les Hits d'or, Frédéric?
Les Hits d'or, c'est le concours publicitaire organisé par CB News depuis des années. En fait, c'est une sorte de championnat. La plupart des palmarès publicitaires, les jurys se réunissent un jour, ils déterminent qui est le meilleur, qui est la meilleure, etc. Les Hits d'or, c'est 10 jurys par an, avec 30 invités qui viennent tous les mois juger ce qu'on nous envoie, ce que les agences nous envoient, les meilleures publicités de l'année. Et la somme de tous les classements donne les Hits d'or que nous avons donc décerné cette semaine.
Retour sur ce palmarès justement, c'est avec Marie Valogne.
C'est un classement avec des surprises cette année. Après plusieurs années de règne, BETC n'est plus sur le podium des meilleures agences de l'année. La première place est raflée par DDB Paris, Alexander Kalchev, directeur de la création.
Est-ce que c'est une victoire de passer devant BETC? Certainement, c'est une des meilleures agences en France. Et chaque jour, on joue des matchs un contre les autres. Et parfois, c'est eux qui gagnent, parfois, c'est nous qui en gagnent. Donc oui, chaque fois, c'est un nouveau match.
Et pour couronner le tout, Alexander Kalchev est nommé meilleur directeur de création du Hit Parade. Récompensé également le concepteur, rédacteur et le directeur artistique de l'agence. Un succès très applaudi lors de la cérémonie. DDB dont on retient cette année les films pour Ubisoft, Le Baptême ou Le Sermon.
Chez DDB, tous les jours, on essaye de mettre la création au sein de tout ce qu'on fait. Parce qu'on estime que c'est notre savoir-faire et parce qu'on estime que c'est... Rien n'est plus efficace pour nos clients. Une très bonne idée a une capacité de transformer une marque. Une très bonne idée a une capacité peut permettre d'embaucher des gens, de construire des usines. Une très bonne idée publicitaire va bien au-delà de juste son intention originale.
Autre agence à se démarquer au Hit d'or, Rosa Park, sacrée meilleure agence en pondéré. Rosa Park qui se distingue par la diversité de ses clients et surtout un travail de qualité et régulier. Jean-François Sacco, cofondateur de l'agence.
Chaque client chez Rosa Park est investi de la même façon. Il n'y a pas vraiment de choix d'un meilleur ou d'un moins bon client. Nous, on fait juste le job comme on sait le faire. On pense que ce métier, il est formidable. On n'est pas du tout snob et on y croit et on adore ce qu'on fait et on le fait aussi bien pour toutes les marques de l'agence, qu'elles soient petites, grandes, il n'y a pas de différence.
Rosa Park se voit aussi décerner la 5e étoile qui détermine la meilleure campagne de l'année. La 5e étoile pour The Worst Song in the World, un clip osé et très kitsch réalisé pour Monoprix.
Quand on travaille avec eux, il y a une hyper bonne relation de confiance. On se connaît bien, on sait où on va ensemble. Et finalement, c'est pas si dur que ça. Et ça se fait en tout cas dans beaucoup d'entendement et beaucoup d'équilibre.
Un succès qui se vérifie aussi auprès des consommateurs. Le film The Worst Song a été vu 16 millions de fois sur Internet.
Bon, un classement qui change, Frédéric.
Oui, c'est vrai. C'est un classement très ouvert cette année avec un trio de trois agences assez différentes, dont une indépendante, Buzzman, en troisième position. Puis c'est surtout intéressant parce qu'en fait, cette année, je pense qu'ont été primées à peu près toutes les représentations actuelles de la publicité, toutes les utilisations actuelles de la publicité, que ce soit du film, du print, de l'affiche, du digital, des opérations spéciales. Donc c'est vraiment un assez joli palmarès.
Merci Fred, on passe à la suite.
BFM Business, HebdoCom. L'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est David Le Clabar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'agence Australie. Vous venez de remporter le budget Lidl après avoir perdu cet été celui de Leclerc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore de l'amour entre Australie et la grande distribution ?
Ah, il y a beaucoup d'amour entre Australie et le commerce de façon générale. C'était une chance d'accompagner Leclerc pendant 19 années. Ça nous a permis de progresser, de très bien comprendre la distribution. Et les équipes à l'agence, qu'elles soient stratèges, qu'elles soient créatives, producteurs, commerciaux, tout le monde adore la distribution et le retail. Et donc, ce savoir-faire, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le laisser s'exprimer.
Frédéric ?
Alors, quand une agence perd un budget, elle se trouve démunie, elle est obligée de laisser partir des gens, soit c'est chez celle qui a gagné, soit tout simplement de les licencier. Du coup, en fait, quelques mois après, bonheur, vous retrouvez un client, un grand client. Comment ça va se passer de ce point de vue-là ? Vous réembauchez des gens ?
On va voir en fait, parce que
Il
y a eu un décalage de calendrier déjà.
Oui, c'est-à-dire
qu'on a travaillé pour Leclerc jusqu'à la fin de l'année.
Ouais.
Et on commence avec la campagne de Noël que vous avez peut-être vue d'ailleurs.
Bien sûr.
Et on va commencer à travailler pour Lidl dès cette année. Donc il n'y a pas eu vraiment de rupture entre guillemets. Sur le travail. Par contre, en termes de management des équipes, on a appris qu'on n'allait plus travailler pour Leclerc au début de l'été, donc il y a plus de 6 mois.
Ouais.
Et compte tenu de l'importance de Leclerc pour nous, on était obligé en tant qu'entrepreneur de prendre des décisions hyper compliquées et donc on a dû se séparer d'une bonne partie des équipes. Ce qui était, d'un point de vue personnel et professionnel, très compliqué. On l'a fait le mieux possible. Et surtout, je voudrais remercier les équipes parce que tout le monde dans cette période qui était quand même pas simple, parce que l'agence est extrêmement humaine, tout le monde s'est serré les coudes, que ce soit ceux qui restaient ou ceux qui partaient. Et notamment le travail jusqu'à la fin pour Leclerc était de grande qualité.
Comment est-ce qu'on repart justement après une perte de budget comme ça ? Comment est-ce qu'on se dit on va aller de l'avant ? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on tire ? Est-ce qu'on se dit tiens on aurait dû travailler d'une autre façon ? Qu'est-ce que vous en retirez vous finalement ?
Ouais, on en tire des leçons. On se dit qu'il faut être meilleur, quoi, parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile on se dit la seule solution c'est d'être meilleur, parce que on comprend pas pourquoi on perd. En plus, on se dit c'est vraiment on fait du bon boulot, oui. On a bien travaillé pendant cette période et pendant cet appel d'offres, on a fait du bon travail pendant plusieurs années, et donc c'est quelqu'un était meilleur que nous. Et c'est la seule manière de voir les choses, je pense, si on veut progresser. Et donc on a tiré des enseignements de la manière dont on avait travaillé jusqu'à présent. Notamment la manière dont on avait mené l'appel d'offres, on avait réussi à mettre dans les équipes beaucoup d'harmonie, ce qui a permis d'être assez performant. Donc il y a des choses qu'on a gardées, et puis il y a des choses où on a vu qu'on n'était pas assez fort et qu'il fallait être meilleur. Et donc il faut continuer à progresser.
Alors vous retrouvez donc un distributeur, vous en avez transformé un pendant une vingtaine d'années de manière assez considérable, et là à nouveau vous êtes au début d'une histoire, donc et qui plus est dans une période où ce marché est en formidable évolution, c'est enthousiasmant, non ?
C'est hyper enthousiasmant. C'est vraiment, c'est génial, parce que déjà il y a une rencontre lors de l'appel d'offres avec une équipe dirigeante Lidl qui est vraiment à part, des gens extrêmement pragmatiques, intelligents, engagés, humains, sincères dans leur démarche. Et donc quand il y a des rencontres comme ça, ça change tout dans la manière dont on travaille. Et puis derrière, il y a un modèle qui est en pleine transformation qui est celui de Lidl, qui était un hard discounter historiquement. Qui est un modèle qui est beaucoup plus jeune par ailleurs qu'un Leclerc en France, donc en plus c'est une histoire d'entreprise et de marque qui est plus jeune, et qui depuis 2012 via Frédéric Fuchs et Michel Biérot a proposé une inflexion stratégique pour sortir du hard discount et aller vers un commerce de proximité qui met en avant la qualité-prix. Et cette transformation, elle est formidable à accompagner, parce que ce modèle, il n'est pas comme les autres et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire changer en termes de perception sur ce qu'est Lidl en France.
Et donc il faut absolument changer effectivement cette perception de la marque, parce que selon vous, elle n'est pas encore intégrée, même si le virage il date de 2012.
Elle n'est pas assez intégrée encore, parce que déjà changer des perceptions c'est compliqué, on le sait tous. Et puis deuxièmement, le modèle Lidl il a beaucoup progressé, et cette progression les clients de Lidl l'ont vu et en profitent. Et d'ailleurs on n'a qu'à voir sur les réseaux comment est-ce que les clients parlent de cette marque, il y a un engagement qui est extrêmement fort. Moi j'avais pas vu ça depuis très longtemps. Et c'est beaucoup lié à la simplicité en fait du modèle et à la qualité de l'offre. Par contre, les gens qui ne sont jamais chez Lidl ont une image a priori d'un hard discounter qu'ils connaissent pas, et dont tout le travail ça va être de leur donner envie de venir pour qu'ils découvrent la qualité Lidl.
Vous avez passé 19 ans à accompagner Leclerc. Est-ce qu'on peut voir encore aujourd'hui, selon vous, dans les années à venir, des longévités aussi grandes entre une agence et sa marque ? Parce que j'ai l'impression, on en parlait pas mal avec Frédéric, qu'aujourd'hui les marques, elles veulent plus vraiment s'engager dans la durée parce que leurs secteurs sont tellement en train d'évoluer et de façon tellement rapide qu'elles veulent finalement pas prendre de risques.
Bah, moi, je l'espère parce que c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Et donc, quand ça va vite, c'est un énorme luxe que de pouvoir se projeter dans un temps long avec les partenaires. C'est-à-dire qu'on n'est jamais aussi bien conseillé que des gens qui vous connaissent, surtout quand il faut faire des changements radicaux. Et Leclerc est une très belle histoire à l'agence, mais le CIC travaille depuis 20 ans avec Australie, et c'est quand même une marque qui a réussi à construire une saga et une image absolument incroyable, parce que c'était une marque inconnue il y a 20 ans, aujourd'hui c'est le challenger très puissant en termes d'image et en termes de business sur la banque. Il y a une marque comme Sisley dans la cosméto qui travaille avec l'agence depuis plus de 25 ans.
Donc, c'est pour ça qu'on vient vous voir en fait, c'est parce que... c'est parce qu'on se dit, ok, il y a... on peut pas forcément pas prévoir à 20 ans, mais il y a une histoire à construire, il y a un travail à faire sur le long terme. Australie fait partie des agences qui sont qui ont ce savoir-faire.
En tout cas, moi, c'est l'héritage que j'ai reçu. C'est comme ça que l'agence travaillait avant que j'arrive. Et moi, c'est ça que j'apprécie. Et c'est vrai dans d'autres agences aussi qui travaillent longtemps avec avec leurs clients. McDonald's travaille depuis très longtemps avec BNDP et puis TB. J'ai eu la chance de les accompagner quand j'étais chez TBWA. Et le travail est remarquable. Et pourtant, tout a changé chez McDonald's et sur le marché. Donc le temps long, c'est important. Et c'est une chance qu'on est indépendant parce que j'ai pas la pression des actionnaires, ou j'ai une pression différente de mes actionnaires, d'autant plus que moi aussi je suis actionnaire. Et donc on peut s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus stratégique, et notamment sur les talents qu'on fait venir et sur l'histoire qu'on est capable d'avoir avec les collaborateurs et donc avec les clients. Et je crois que le temps long aujourd'hui, c'est une nécessité, surtout quand il faut aller très vite.
Vous êtes, vous l'avez dit, une agence indépendante, une agence familiale aussi. On a beaucoup parlé l'année dernière avec Frédéric sur ce plateau de d'une certaine désaffection des marques vis-à-vis des grosses agences. Certaines récupèrent leur budget en interne. Est-ce que c'est pas là où justement les agences indépendantes comme la vôtre, elles ont une carte à jouer aujourd'hui ?
Ah oui, je pense que les agences indépendantes ont une carte à jouer. D'ailleurs, il y en a plein qui se créent et je trouve ça très bien. Ça montre une vraie dynamique sur le marché. Et l'indépendance... c'est une chance, je crois, pour les annonceurs, parce que on peut avoir un point de vue qui est très décorrélé des enjeux financiers qu'on peut avoir parfois dans les grands groupes. Après, il faut pas se leurrer. On est quand même sur un marché où il y a une concentration qui est très forte.
Merci beaucoup, David Leclavard. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence Australie.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business cette semaine. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors, vous avez repéré une tendance qui monte apparemment chez les marques de luxe. Elles s'associent à des projets d'immeubles, de gratte-ciel ou de résidences de prestige, Simon.
Oui, c'est un bon moyen pour les marques de luxe d'être présents dans le quotidien des plus riches, évidemment, associer son nom à un projet immobilier. Effectivement, on parle de résidences de luxe, d'hôtels haut de gamme, de gratte-ciel futuriste. Selon un cabinet spécialisé interrogé par Bloomberg, on dénombre déjà plus de 400 ensembles immobiliers dans le monde, ainsi sponsorisés par des marques de luxe, et une centaine sont en voie de construction. Au total, cela représente près de 70 000 logements dans des immeubles dont le nom va être associé à Porsche, Armani, Versace ou Aston Martin.
C'est dingue, vous avez des exemples ?
Oui, il y a par exemple la Porsche Design Tower, inaugurée en 2017 près de Miami, une tour équipée d'un ascenseur, ou plutôt d'un monte-charge qui élève les voitures, idéalement des Porsche par conséquent, jusqu'à un parking aérien séparé des appartements par une simple vitre pour que les propriétaires puissent admirer leur voiture, même quand ils sont dans leur salon. À Miami toujours, on reste dans l'automobile avec Aston Martin, la résidence Aston Martin qui doit être inaugurée en 2020. Le logo de la marque sera affiché dans le lobby, dans l'ensemble des parties communes. Il s'agit évidemment d'une résidence de luxe avec piscine à débordement sur le toit, des emplacements au pied de l'immeuble pour des yachts, et les prix démarrent à 500 000 dollars pour un appartement de 65 mètres carrés. On trouve aussi de nombreuses résidences haut de gamme sponsorisées, là c'est assez logique, par des marques d'hôtels de luxe comme Four Seasons ou Mandarin Oriental, qui sont associés non pas à un hôtel, mais à des résidences où on peut acheter les appartements.
Ah ouais ?
Oui, le simple usage de ce nom permet de vendre les appartements 30% plus cher en moyenne. C'est une bonne opération. Et puis, autre catégorie, les marques de haute couture, de bijouterie, avec des résidences Bulgarie ouvertes à Londres en 2012, mais aussi à Dubaï, avec un immeuble Bulgarie de 168 appartements et un prix d'appel de 1 200 000 dollars pour un appartement avec une seule chambre. C'est un peu cher. Et puis on trouve aussi la résidence Armani, toujours à Dubaï, les résidences Versace, là c'est à Mani, etc., etc.
En fait, c'est une sorte de marketing immobilier, quoi.
Oui, c'est un peu un aboutissement pour une marque de luxe, finalement. On ne porte plus la marque, on vit dans la marque. Hein. On peut pas aller plus loin. C'est peut-être un peu extrême pour un consommateur lambda, mais voilà, il y a une clientèle. On le voit, ça se concentre dans quelques grandes régions, hein. Miami, Londres, Moyen-Orient, les grandes villes asiatiques, là où le marché du luxe est le plus compétitif. Et puis, finalement, on peut rapprocher cette tendance d'une autre qui nous concerne davantage. Quand on n'a pas les moyens de se payer ce genre de marque de luxe, c'est le naming, évidemment, naming ouais. de stade, naming de salles de concert. Là aussi, c'est un moyen pour les marques bien de sortir de leur univers, d'investir un peu la cité et de toucher les consommateurs dans leur quotidien, finalement.
Ouais, bah je sais pas vous, Fred, mais moi je trouve que c'est un peu trop bling bling pour moi.
C'est un peu bling.
Un petit peu, ouais, certes.
Merci beaucoup, Simon Tenenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le Zoom du jour, aujourd'hui, autour de la deuxième édition de Best Brands en France. C'est une cérémonie qui récompense les marques les plus performantes. C'est orchestré par Service Plan et GFK. Ce classement mesure les performances des marques en se basant sur leur succès économique et sur la préférence émotionnelle des consommateurs. Et on va décrypter tout ça avec aujourd'hui Émilie Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du développement et de l'intégration de Service Plan en France. Et Agnès Jacot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice marketing de Roxane, qui se trouve être la maison mère de Cristaline. Émilie Martin, pourquoi est-ce qu'on a un classement en plus comme ça sur les marques? C'est un classement de plus Best Brand ou c'est autre chose?
Non, c'est vraiment autre chose. C'est vrai qu'on nous pose tout de suite la question. Et au début, quand on a lancé Best Brands en France, on a eu beaucoup de critiques à ce sujet. La particularité de Best Brands, c'est d'être un projet inédit entre un institut d'études d'une part, GFK, avec toute la crédibilité, la légitimité qu'ils doivent avoir dans le processus d'études, et d'une autre part, d'un groupe de communication qui va être dans l'analyse prospective et effectivement dans la réflexion de comment on peut accompagner les marques demain à devenir des best brands et accompagner les consommateurs dans leur quotidien.
Et comment est-ce que vous établissez ce classement? Alors, c'est quoi la méthodologie?
Alors, les marques sont choisies par rapport à leur justification en termes de poids économique. Quel est le poids économique d'une marque? Donc, ça passe par les parts de marché, par les investissements médias et communication. Et puis ensuite, GFK utilise à la fois des données de marché, qui sont les parts de marché et le price premium, le rapport qualité-prix, qui est un indice. Et ensuite, elle interroge un panel de 4500 consommateurs sur différents items pour mesurer leurs préférences. Alors ça va être la notoriété, ça va être la relation à la marque, ça va être aussi la fidélité à la marque. Une fois qu'un consommateur a acheté une marque, elle va être sa propension à la racheter une deuxième fois. Et puis elle va passer dans une moulinette qui est vraiment propre à celle d'un institut d'études où on n'a absolument pas, nous, en tant qu'agence de communication, accès. Et elle va remettre, en fait, la voix des consommateurs qui vont dire, voilà, cette marque est une best brand parce qu'elle est à la fois, elle a une performance économique, elle est présente dans la vie des quotidiens, mais parce qu'aussi elle représente ce que les consommateurs cherchent en termes d'expérience. Est-ce qu'elle va répondre à leurs engagements? Est-ce qu'elle va les accompagner dans leur quotidien?
C'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange de l'étude scientifique, de classement avec le rapport qu'ont les consommateurs. Ensuite, ce qui est assez frappant dans le classement cette année et l'année dernière d'ailleurs, c'est qu'au fond, les marques qui sortent tout à fait en tête, Amazon, Samsung, il y a Cristaline bien sûr, mais il y a, hormis Cristaline, c'est d'énormes marques américaines, d'énormes marques mondiales.
Pas qu'américaines,
hein, Frédéric? Ou coréennes. En tout cas, c'est des marques mondiales, des marques d'immense consommation. Ce qui fait, comment est-ce qu'on explique ça, en fait?
Ce qui fait la richesse, justement, de Best Buy, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les grands gagnants, mais d'aller regarder les top 10. Alors, effectivement, d'accord, on a des marques comme Cristaline, mais on a aussi, sur la même marque, la marque Bic, la marque Lays, sans vouloir les citer certains, la marque Bosch, donc qui sont pas, justement, des marques, des grosses marques américaines. Alors, pourquoi les marques, finalement, au-delà d'être américaines, elles sont plutôt dans le secteur du high-tech? Ces marques de l'high-tech font partie de notre quotidien, en permanence. Mmh. Donc, elles appartiennent à la vie des consommateurs. Les consommateurs ont une relation extrêmement privilégiée avec elles, donc elles font partie. À côté de ça, des marques qui font partie de notre quotidien, dans notre alimentation, dans notre relation aux gens, dans le travail, dans comme Cristaline, comme Bic, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on dit « t'aurais pas un Bic plutôt que t'aurais pas un stylo ». Ce sont des marques qui ont vraiment leur place en tant que best friends, parce qu'elles sont inscrites dans le quotidien des consommateurs.
Moi, je trouve que ça en dit très très long sur notre mode de vie, finalement, parce que si on regarde effectivement le classement, on trouve en gros notre téléphone, le site où on fait nos courses et puis notre bouteille d'eau, parce qu'il y a Cristaline effectivement. C'est une performance pour vous chez Cristaline d'arriver comme ça dans ce classement en ayant un produit aussi simple, aussi basique qu'une bouteille d'eau, se retrouver comme ça à côté de valeurs technologiques.
Tout à fait, on est extrêmement fiers chez Cristaline, société familiale française, hein, on faut le souligner, puisque effectivement dans le top 10 on a beaucoup de marques internationales. Donc d'être choisi par les consommateurs à travers de cette étude et de ce palmarès, c'est effectivement quelque chose de très important pour nous. C'est surtout le capital confiance et fidélité qu'on a réussi à établir avec notre consommateur depuis maintenant 25 ans.
Comment est-ce que vous expliquez ça, ce succès auprès des consommateurs?
Alors c'est un succès qui ne s'est pas expliqué par la communication, hein, puisque Cristaline s'est surtout imposée par ce qu'elle promettait aux consommateurs et ce qu'elle s'engage à lui proposer, c'est-à-dire une grande source de grande qualité à un prix accessible à tous. Et depuis 2002, le prix de la Cristaline n'a pas bougé. On est à 20 centimes d'euros la bouteille.
Vous n'avez pas changé depuis 17 ans?
Exactement. Donc c'est un vrai capital.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres produits qui doivent pouvoir dire ça. Enfin,
non, je pense pas.
Voilà. Et donc ça fait partie un peu de l'ADN historique de Cristaline, mais aussi il y a d'autres engagements qui sont des engagements pour l'environnement qu'on partage avec nos consommateurs et qui font aussi la force de cette marque et du lien qu'on a avec eux.
Ça vous permet de passer devant des petites marques comme Bic ou Coca, ce qui est quand même pas...
Eh ben effectivement, nous, on est une eau qui est dans le quotidien des Français. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour eux. Et aussi, on est dans le quotidien, mais on est engagé. Et on s'engage, et eux s'engagent avec nous, nos consommateurs. Par exemple, donc on a depuis 25 ans divisé par deux le poids des bouteilles. Donc, ça leur permet de consommer de l'eau avec le minimum d'emballage. On est la bouteille la plus légère du marché. Aujourd'hui, on est très engagé sur le recyclage. Depuis 10 ans, on a créé une usine de recyclage dans le nord de la France qui nous permet d'intégrer du plastique recyclé dans la fabrication de nos bouteilles.
De vos propres bouteilles.
Ça, c'est ça. Donc, tout ça va dans le sens de ce que veulent aujourd'hui les consommateurs, des produits plus respectueux, mais des produits de qualité.
Alors chez Cristaline, vous êtes aussi bien placé, parce qu'il y a plusieurs catégories, dans la catégorie Golden Age, c'est-à-dire je crois les plus de 50. C'est une cible que vous soignez particulièrement ou finalement pas plus qu'une autre?
Pas plus qu'une autre, hein. Cristaline c'est présent dans plus d'un foyer sur deux aujourd'hui, donc les seniors comme les jeunes. Donc on est surtout une eau très familiale, donc on est très présent dans les familles, mais on est très fiers si nos seniors nous font confiance. Donc on est quand même maintenant une eau patrimoniale, maintenant avec 25 ans d'existence.
Justement, Émilie, pourquoi avoir cette année choisi ce tri sur les Golden Age? C'est parce qu'on revient des millennials ou...
Alors, un rapide focus sur les catégories. Effectivement, Best Buy a la particularité d'avoir deux catégories fixes chaque année, qui sont donc Product Buy et Corporate Buy, et on choisit deux catégories spécifiques qui sont pour nous selon les tendances. L'année dernière, on avait millennials et the best French brand in Europe, donc auprès d'un panel de consommateurs européens. Cette année, on a choisi de mettre en avant le Golden Age. Alors, c'est pas juste les seniors, c'est effectivement les consommateurs de plus de 50 ans. Et on s'aperçoit que c'est...
J'ai entendu dire qu'on disait les juniors aussi.
Fort probablement. Donc effectivement, c'est une cible marketing très pertinente, puisqu'aujourd'hui, elle représente 25 millions de consommateurs, mais qu'elle va être amenée à évoluer beaucoup. C'est une cible qui a un revenu pour deux tiers supérieur à 3000 euros. Donc quand on parle à des annonceurs, et donc des marketeurs, on s'intéresse aussi à ces potentiels de vente. Donc on a décidé de les mettre en avant cette année, et on est assez fiers effectivement d'avoir mis ça en avant. Il s'avère aussi, et c'est un petit point intéressant, c'est que Best Buy s'est organisé dans différents pays, et le hasard, ou en tout cas la cohérence des opinions, a fait que d'autres pays ont choisi aussi Golden Age sans se consulter avec la France, parce qu'on trouve effectivement dans chacun des pays que le Golden Age est peut-être la cible d'avenir. On va parler beaucoup des millennials, mais voilà.
Mais c'est intéressant parce que justement, avec le vieillissement de la population, en plus on sait que c'est eux qui ont le plus fort pouvoir d'achat, pourquoi est-ce que les annonceurs ont peut-être un peu trop tendance à aider les siens, non ?
Eh ben justement, on a décidé nous cette année de vraiment les mettre à l'honneur et on retrouve des très très belles marques et j'espère, puisqu'on organise en fait tout au long de l'année des focus sur les différents rankings, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de montrer la pertinence de cette cible pour les annonceurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de marques se tournent vers cette cible aussi, parce que c'est une marque qui a un pouvoir d'achat conséquent, qui a aussi une liberté d'utiliser. Sur les jeunes, ils ont peut-être moins de pouvoir d'achat. Sur les familles avec des jeunes enfants, bah, le pouvoir d'achat est utilisé pour des choix parfois nécessaires. Quand on commence à avoir 50 ans, les enfants sont plus grands, on peut se permettre d'utiliser un peu pour ce qu'on veut. Donc voilà. Allons vers la liberté. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui ressort des marques Passman. Les Passman sont des marques qui permettent aux consommateurs de faire leur choix librement. Et ça, c'est très important. On a parlé effectivement de toutes les actions de Cristaline. C'est les marques qui vont respecter leurs engagements, qui vont être dans le vrai, dans le juste, et pas dans la captivité.
Merci beaucoup, Émilie Martin. Je rappelle que vous êtes directrice développement et de l'intégration de Service Plan France. Agnès Jacquot, directrice marketing de Roxane. Merci aussi à notre junior Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdocom sur BFM Business.